Le journal, Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Des corps calcinés par dizaines. L'explosion meurtrière d'un oléoduc au Mexique révèle le fléau qui mine le pays. Le vol de carburant par les réseaux criminels. La population privée d'essence est première victime. Gilets jaunes, nouveau samedi de mobilisation, identique au précédent, malgré le lancement du grand débat qui les laisse sceptiques. Nous irons à Rennes. Encore des violences. La police accusée de les provoquer. Dans ce journal encore, parole aux riverains de l'aéroport de Nantes, victimes de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ils manifestaient hier contre le bruit. Le PSG puissance 9, victoire 9-0 du jamais vu au Parc des Princes. Et un navigateur sauvé par la marine israélienne après 15 jours de dérive en Méditerranée.
Les invités dans le 6-9 avec Patricia Martin à 8h-10. Patricia.
Patrick Timsit pour le livre de ma mère cet après-midi à l'Opéra Comique.
Et à 8h20, dans ce studio, en direct, le maire LR de Reims, Arnaud Robinet, sa réaction face au mouvement des Gilets jaunes qui perdure, et puis face à ce grand débat national lancé par Emmanuel Macron.
France Inter.
Bernadette, des corps calcinés dans un champ noirci, une insupportable odeur d'essence, tragédie au Mexique.
Au moins 73 morts, 74 blessés, certains très gravement brûlés. Le pays est sous le choc après l'explosion d'un oléoduc dans le centre du Mexique. Le drame touche des familles entières, des parents avec leurs enfants venus récupérer du carburant, se servir sur le geyser sorti de la canalisation qui avait été perforé auparavant par des trafiquants. C'est un fléau qui dure depuis des années dans le pays, qui a entraîné une réaction en chaîne des autorités, chronique d'une tragédie annoncée à Mexico, Alix Hardy.
Ces dernières années, le vol de carburant est devenu une source de revenus majeure pour les gangs criminels du pays. L'État estime la perte à 3 milliards de dollars. Le nouveau gouvernement mexicain a donc décidé de s'attaquer au problème fin décembre en fermant plusieurs oléoducs, ce qui a provoqué une pénurie de carburant et de longues files d'attente devant les pompes à essence d'une dizaine d'États et de la capitale. Une stratégie largement critiquée par l'opposition et le patronat qui lui reproche de ne pas avoir anticipé les conséquences sur la population. La tragique explosion de ce vendredi dans le centre du pays les conforte dans leur position, car le manque d'essence a encouragé les habitants à s'approcher de la fuite malgré le danger. Mais le président López Obrador, qui accuse les trois derniers chefs d'État d'avoir fermé les yeux face au problème, a annoncé samedi qu'il ne ferait pas marche arrière. Pour lui, ce drame est une preuve de plus qu'il faut en finir avec cette pratique. Loin de nous faire reculer, cela nous renforce dans notre combat, a-t-il déclaré sur les lieux du drame, ajoutant que si le peuple en arrive à de tels extrêmes, c'est qu'il a été abandonné par les gouvernements précédents. Alix Hardy, France Inter.
Aux États-Unis, Donald Trump a répété hier soir qu'il voulait son mur anti-migrant avec le Mexique pour en finir avec le shutdown qui paralyse l'administration fédérale. Il propose juste de prolonger la protection des migrants arrivés illégalement aux États-Unis quand ils étaient mineurs. Une proposition balayée par les démocrates, le shutdown subsiste. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, officiellement proclamé ce matin président de la République, son adversaire Martin Fayoulou appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un pouvoir illégitime. Il accuse l'ancien président Kabila de perpétuer sa mainmise sur le pays par l'intermédiaire du nouveau président.
7h34, dixième samedi de mobilisation des Gilets jaunes et un grand débat qui ne change rien.
84 000 manifestants hier dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Ce sont les mêmes chiffres que le samedi précédent. Au moins 10 000 à Toulouse, 5 000 à Bordeaux, 2 000 à Rennes, où le mot d'ordre semblait être Maxime Bossonnet. Grand débat ou pas, on est toujours là.
Le grand débat n'a pas forcément convaincu les gilets jaunes bretons. La plupart parlent d'enfumage de la part d'Emmanuel Macron.
Lui, au jour d'aujourd'hui, il parle, il fait sa messe et il répond aux questions qu'il s'est posées lui-même. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on voulons, c'est un rendez-vous citoyen avec le président de la République et pas avec les maires. Voilà, c'est de l'intox, hein. C'est lui qui impose un petit peu pour justement pour distiller un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, éviter justement que les gilets jaunes soient dans la rue.
D'autres y voient une tactique politique. Patrick, par exemple, rennais de 58 ans, pense qu'avec ce grand débat, le président prépare les élections européennes.
On fait un petit peu la politique de l'Europe, il fait sa deuxième rentrée politique.
Mais tous ne sont pas du même avis. Joëlle a 60 ans, elle est venue d'Auray, elle trouve les réunions réunions et les débats utiles pour faire avancer les choses.
Ça permet de dialoguer entre plusieurs, on discute, c'est vrai que c'est intéressant, c'est bien, c'est pas que du négatif. Et puis on dit ce qu'on a à dire, d'accord, pas d'accord, peu importe l'opinion politique.
Tous les gilets jaunes sont d'accord néanmoins sur une chose, la nécessité d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne.
Et même si elle est en baisse, il y a eu encore de la violence, notamment à Rennes. Jets de projectiles de toutes sortes contre flashballs et gaz lacrymogènes, 10 manifestants et 6 policiers blessés. À Bordeaux, violence après dispersion de la manifestation, 5 voitures brûlées, 49 interpellations. Et à Toulouse, une banque a été saccagée. C'est mercredi prochain que les députés examineront en commission la nouvelle loi anti-casseurs imaginée par l'exécutif. Création d'un fichier pour recenser les casseurs qui, une fois identifiés, auront interdiction de manifester. Sans rapport, même s'il s'agit là encore d'une manifestation d'habitants qui ne se sont pas fait entendre pendant longtemps. Les riverains de l'aéroport de Nantes, première victime, selon eux, de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Habitants de Rezé, de Saint-Aignan-de-Grandlieu, hier, ils ont décidé d'élever la voix Paul Sertilange.
Tout était très bien organisé. Un service d'ordre, un parcours prédéfini, beaucoup de pancartes et de banderoles, quelques chants. Mais surtout, grâce à une sono surpuissante, un bruit omniprésent.
Vous allez vivre à Saint-Aignan, vous verrez.
Paul et les autres manifestants sont désabusés.
Ça, c'est ce que les gens et les Nantais n'ont pas encore compris. Mais ils vont vite comprendre. C'est tous les jours. À partir de 5h30 du matin, si vous voulez tout savoir.
Jusqu'à 23h, quoi. Et plus ça va, plus il y a d'avions.
Ça passe en plein après-midi aussi.
Ça passe en plein après-midi.
Jusque dans les années 2000, ça allait à peu près, mais maintenant ça devient carrément insupportable. C'est excessivement bruyant. Il faut le déménager, c'est la seule solution.
Tout le monde est d'accord pour le transfert, sans pour autant savoir où.
C'est à l'État de proposer. On n'est que des citoyens. On est là que pour crier notre colère. On souhaite que justement l'État et les élus se disent « Bah oui, peut-être qu'il y a une solution, on transfère et puis on va étudier ça ». En tout cas, dans le projet là qu'on va nous présenter, il n'y a pas la mention transfert.
En 2018, l'aéroport Nantes-Atlantique a enregistré une hausse de 13% de son nombre de passagers. 20 nouvelles lignes sont déjà annoncées pour 2019.
Reportage de Paul Sertilange. Imaginez à la dérive pendant 15 jours en Méditerranée. C'est ce qui est arrivé à un navigateur français parti en voilier il y a un mois d'un port français, secouru in extremis par la marine israélienne. Marine Vlaovic.
C'est par une mer agitée à une quarantaine de kilomètres au large de la bande de Gaza que la marine israélienne a repéré un voilier en provenance des côtes égyptiennes. À son bord, Jean-François Cola, à la dérive et seul au monde depuis plusieurs semaines. Le sexagénaire qui se présente comme un navigateur expérimenté raconte sa mésaventure à la télévision israélienne, la chaîne 13.
L'informatique est tombée en panne, j'ai eu le moteur qui est tombé en panne. Et j'ai eu ma chaîne de l'ancre qui a cassé, j'étais dérivé dans le large, je savais plus où j'étais. J'avais presque plus rien à boire là, j'ai vu le phare arriver, c'était l'armée qui est arrivée, qui est venue me dépanner. Ils sont débrouillés, ils ont mis le canot à l'eau, ils sont venus, ils ont eu du mal à monter sur le bateau parce que beaucoup de vagues. On a eu du mal à monter sur le Zodiac et aller sur leur bateau à eux. Après, on a laissé le bateau.
À son arrivée à terre, le marin a été hospitalisé avant de rejoindre son bateau, lui aussi secouru par l'armée, dans le port d'Ashkelon, au sud d'Israël, d'où il compte réparer le Zena, son voilier, pour reprendre la mer au plus vite. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Dans un tout autre genre, mais à la dérive aussi, Guingamp face à une avalanche de buts, 9-0 hier au Parc des Princes, face aux Parisiens, donc Guingamp totalement démuni, Sébastien Hazard.
Décidément, les matchs face à Guingamp sont toujours étonnants. Cette fois-ci, Paris a fait le show, les supporters ont apprécié le spectacle proposé, Kylian Mbappé aussi, l'attaquant parisien a inscrit un triplé, 9-0 dans un match, il ne se souvient pas avoir déjà vécu ça.
Non, je crois qu'avec Monaco, une fois en Coupe de la Ligue, on avait mis pas mal, mais je crois pas que c'était 9, donc non, pas de mes souvenirs. C'est bien, on est content.
Une première pour lui, pas pour Paris. En 2016 à 3, le Paris Saint-Germain avait réussi une performance similaire. Ce résultat intervient une dizaine de jours après l'élimination en Coupe de la Ligue face à cette même équipe guingampaise. Mais pas question d'évoquer une quelconque revanche, reprend l'attaquant du PSG.
C'est deux matchs complètement différents. Eux, ils nous ont pris un titre et là, il n'y a rien qu'à changer. Je crois qu'on est toujours premier. Ils sont dans la même situation, donc c'est deux cas complètement différents.
Le Paris Saint-Germain a bien sûr en tête le déplacement à Manchester mi-février en Ligue des Champions. Paris, dans le ton, à moins d'un mois de ce rendez-vous, se félicite Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.
C'est bien de commencer comme ça, que le joueur peut sentir que nous sommes capables de faire ça, de faire des choses simples mais décisives.
Un match Match marqué également par un coup dur, l'entraîneur parisien craignait hier soir d'avoir perdu sur blessure son milieu de terrain Marco Verratti pour plusieurs semaines.
Et dérive toujours Monaco. Monaco, nouvelle humiliation, battu 5-1 à domicile par Strasbourg. Monaco, toujours avant-dernier de la Ligue.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Le temps en ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Oh, cette question, à chaque fois, ça me trouble. Jean-Michel Golinski est avec nous, en ligne. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour Pierre.
Oui, cet après-midi, les températures seront stationnaires par rapport à hier.
Ah, tout à fait, avec 2 degrés prévus à Strasbourg, 3 à Lille, 4 à Dijon, 5 à Paris, 7 à Limoges et Lyon, 9 à 11 de la Bretagne aux Charentes et 10 à 13 degrés de l'Aquitaine à l'arc méditerranéen. Aujourd'hui, soleil, nuages et averses vont se succéder dans un ciel variable sur la façade océanique, près de la Manche, sur le bassin méditerranéen et à l'est du Rhône. Notez des éclaircies plus durables au nord de la Somme et sur les Alpes et un risque d'orage, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine et aux environs de la Corse. Sur une diagonale Pyrénées-Massif central nord-est, là on ne verra pas le soleil, sous un ciel invariablement bouché et humide, ponctué de pluies faibles, et puis en journée des flocons vont tomber vers 1000 mètres sur les Pyrénées, 500 mètres du Massif central aux Vosges et sur le Jura. Neige qui blanchit parfois actuellement les routes de plaine, près des frontières luxembourgeoises et allemandes.